Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 25 mars 1987.
Philosophie de l'âme. Puis, avec le stoïcisme, l'aspect de la personne. On ne peut pas nier, et le stoïcisme nie la contemplation et regarde l'action. La reprise de l'âme. Donc la philosophie grecque n'a pas perdu la philosophie de l'âme par le stoïcisme. C'est un retour à une tradition philosophique, comme dit Breyer, philosophie. Tradition grecque. C'était repris par le néoplatonisme. On ne peut pas le nier que le néoplatonisme redonne à l'âme une place importante, mais une place très inférieur à la personne. Et c'est peut-être cela qu'il est intéressant à noter. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné hier. Oui. L'âme a sa place, mais troisième hypostase. Et donc, avant l'âme, il y a la personne. Je regarde en théologie, alors là, il faudrait faire tout l'aspect de la théologie. De plus en plus, on souligne combien les pères ont été très impressionnés par le stoïcisme, au point de vue moral, et par le néoplatonisme. Ça, c'est sûr, on ne peut pas le nier. L'influence du néoplatonisme est très forte chez les pères de l'Église. C'est pour ça que si on regarde un tout petit peu, d'une façon un peu matérielle et extérieure, on dira le néoplatonisme, c'est la philosophie que le christianisme a assumée pleinement, sans porter de jugement de valeur et uniquement de regarder les faits. On peut dire que c'est la philosophie qui a la plus grande influence sur la philosophie chrétienne. Le néoplatonisme de Plotin, de Proclus, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Il faut être attentif à ça. Il ne faut pas vouloir dire que c'est l'aristotélisme, pas du tout. C'est le néoplatonisme qui a eu la plus grande influence. Vous voyez, Denis, Maxime le Confesseur, Scott Erigène, et c'est des philosophies, c'est des théologies à aspiration mystique qu'on remet très fort en lumière aujourd'hui. Maxime le Confesseur, c'est un de ceux qui est mis le plus en lumière aujourd'hui, en disant Maxime le Confesseur peut faire peut-être le lien entre l'influence aristotélicienne et l'influence néoplatonicienne. C'est comme ça qu'on utilise Maxime le Confesseur aujourd'hui. C'est récent, Maxime le Confesseur n'était pas très cité avant, mais maintenant, il est très mis en lumière. Et puis, saint Thomas représente un cas très particulier. On ne peut pas le nier. Et saint Thomas a cette audace de reprendre le point de vue d'Aristote. Et je crois que si on regarde attentivement saint Thomas, sa théologie est dominée par le problème de la personne. C'est pas du tout parce que je veux mettre saint Thomas à l'ordre du jour en disant que c'est le problème de la personne. Non. Quand je dis que saint Thomas est existentialiste, je le mets à la sauce existentialiste, tandis que la question de la personne, on ne peut pas le nier. Ça revient constamment. Je ne vais pas regarder le nombre de fois où saint Thomas citait la personne. On l'a regardé pour l'être et la personne. Alors on pourrait dire que les deux pôles de pensée de saint Thomas, ce serait peut-être juste de dire ça. Les deux pôles de la pensée de saint Thomas, c'est l'être et la personne. Puisque le primo cadit in intellectus, ens, est cité 175 fois ou 78 fois. Regardez la petite thèse qui est parue à la Grégorienne là-dessus. Et puis, la personne qui nous son traité de la très sainte Trinité ne peut pas nier. Saint Thomas ne se pose pas la question « Est-ce que Dieu est une personne ?» Ça va de soi pour saint Thomas. Aliquid, il est quelqu'un. C'est ça qui guide nous. Et dans la très sainte Trinité, dans le traité du Christ, tout est sur le mystère de la personne du Christ. Et toute sa morale. Dire que la morale de saint Thomas est une morale de la nature, c'est faux. Vous voyez, c'est exactement la même erreur que quand on dit que la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de la matière et de la forme. Ce que Gilson dit, et je crois que ça c'est faux, la philosophie d'Aristote, se base sur la philosophie de la nature. Donc la distinction de la matière et de la forme. Donc l'expérience de ce qui est en devenir. On peut dire que toute la philosophie d'Aristote est tendue vers la philosophie du vivant et la philosophie première. C'est ça qui commande tout. Ça me semble net. Or, la philosophie première dépasse la distinction matière et forme. Donc, on est devant quelque chose de différent. Et ce n'est plus la distinction de la matière et de la forme qui commande tout l'aristotélisme. Bien, pour saint Thomas, je crois prétendre que la philosophie morale de saint Thomas, c'est une philosophie morale de la nature. Ce serait commettre la même erreur. La théologie morale de saint Thomas, c'est la théologie morale de l'image de Dieu, l'imago Dei, à la suite des pères de l'Église, du reste. Qu'ils se servent de la nature, c'est bien évident. Mais ce n'est pas cela qui commande cette théologie morale. Cette théologie morale, c'est l'homme qui a cette responsabilité, qui est maître responsable de ses actes. Et là, il rejoint bien le point de vue de la personne. Mais ce qui est vrai, alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que saint Thomas, s'appuyant sur la définition de Boès, essaie, et je crois qu'il est arrivé, à joindre d'une façon harmonieuse nature, substance, esprit. Il y a les trois points qui me semblent absolument essentiels que saint Thomas donne harmonieusement. Et c'est pour ça que je dirais que l'originalité de la théologie de saint Thomas, c'est d'être une théologie de la personne. Ce serait très intéressant à bien montrer ça. C'est une théologie de la personne, mais qui s'appuie sur le point de vue de la nature. C'est fondamental pour saint Thomas, mais c'est pas l'essentiel. De la nature, on passe à la substance. Et de la substance, on passe à l'esprit. On y fait ce lien entre ces trois dimensions qui, il faut bien le reconnaître, chez Boès, étaient liées logiquement. Ce qui me semble être le caractère original de saint Thomas, c'est d'avoir compris que la personne doit être saisie d'une façon philosophique, métaphysique, c'est-à-dire, il en fait la théologie, faisons bien attention, hein. Il fait la théologie de la personne, et cette théologie de la personne assume une conception métaphysique de la personne. Mais il ne nous donne pas un traité métaphysique de la personne. Ce qui est très curieux, là ça pose un petit problème. Ce qui est très curieux, c'est que Suarez, dans ses Disputationes Metaphysicae, ne met pas du tout en lumière le problème de la personne. C'est la métaphysique de l'être. C'est la métaphysique des transcendentaux. Chez Suarez, c'est net. C'est la métaphysique des transcendentaux. Et c'est ce que vous voyez, de fait, dans toute la scolastique qui suit. Cherchez dans un traité de scolastique, un traité sur la personne au niveau philosophie première, ça n'existe pas. Peut-être, si vous en trouvez un, vous me le direz. Je ne l'ai pas trouvé. Regardez, à titre simplement de petit signe, quand le père Gardeille fait un petit traité philosophique selon saint Thomas, regardez son traité métaphysique, la personne n'est pas présente. Moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir que de fait la scolastique dite thomiste, en réalité suarésienne, commence par les transcendentaux. Ce sont les transcendentaux. On parle du traité de la substance. C'est bien évident. La plupart du temps, on n'a pas vu la différence entre la substance au niveau prédicament et au niveau métaphysique. On est resté dans un mélange logique-métaphysique. On n'a pas vu la différence entre les deux. La métaphysique de l'acte est passée très rapidement. On prend la grande distinction comme la distinction fondamentale en Thomis, la distinction de l'essence et de l'existence. Et on répète ça comme ce qui est au cœur du thomisme. Et au fond, on la comprend comme une thèse. Alors on est devenu les 24 thèses thomistes. Et on considère que c'est ça le thomisme. Comme si le thomisme était fait pour faire des thèses. Et l'aspect apologétique de la philosophique, qui est la fin de tout, c'est l'enterrement de première classe. Quand la métaphysique devient une apologétique, c'est l'enterrement de première classe. Il y a deux enterrements de la métaphysique. L'aspect logique et l'aspect apologétique. Je sais pas quel est le plus grand enterrement. Mais c'est quand même deux grands enterrements. La logique, Occam, et les grandes thèses thomistes, alors. C'est la scolastique décadente. Parce que si on fait de la logique, de la philosophie pour défendre des thèses, vous comprenez bien, ça signifie plus rien du tout. Mais c'est un fait que le problème de la personne a été évacué de la métaphysique. Qu'est-ce que je constate? C'est que avec la reprise de la philosophie avec Descartes, parce qu'on ne peut pas nier que Descartes représente, même si on met avant Descartes tel ou tel, c'est quand même Descartes qui joue ce point de vue très important. Officiellement, hein. Je veux dire, il y en a, Descartes dépend d'autres, je vous l'ai dit hier, mais officiellement c'est Descartes qui a joué ce rôle. Or, qu'est-ce qu'il y a avec Descartes? On voit le primat du sujet, les idées. C'est les idées qui commandent tout. Or, il était très difficile de répondre à Descartes avec une métaphysique suarésienne, puisque de fait, il y a une parenté. Si vous commencez la métaphysique par l'idée d'être, vous ne pouvez pas répondre à Descartes. Or, vous répondez à Descartes partiellement, mais pas entièrement. C'est très curieux, ça. Et on a enlevé à la métaphysique thomiste son nerf. Et quand on enlève le nerf, il n'y a plus de vigueur. Hein. La métaphysique thomiste, commençant par les transcendentaux, commence par des idées. Donc elle a perdu sa force. Elle a perdu le jugement d'existence. Donc elle a perdu le contact avec le réel. Elle n'est plus réaliste. N'étant plus réaliste, eh bien, forcément, elle perd sa vigueur propre. Alors, la philosophie, commençant par l'idée, s'est orientée de plus en plus vers un subjectivisme. Et c'est ça qui est très curieux. C'est que la philosophie de la personne peut maintenir ce primat du sujet. Et même, je dirais, c'est le grand cheval de bataille. La personne n'est pas une chose, elle est un sujet. Alors, tout va dans le même sens. Et c'est ça qui est intéressant. Primat du sujet, primat de l'idée. Donc c'est le primat du sujet. Mes idées, c'est les miennes, c'est pas les vôtres. Quand je pars d'une idée, je pars de mon idée. Ben, si vous l'avez pas, tant pis. Hein. Vous me rejoindrez le jour où vous l'aurez. Tandis que si je pars de la réalité, je peux vous dire, ah, voilà, il y a une expérience, partez de là. nous sommes liés. Vous la comprendrez autrement que moi, c'est possible. Mais au moins, il y a une expérience. Et c'est cette expérience à laquelle on revient. Je veux dire, ça a été la réaction pour moi. Ça m'a beaucoup frappé. De certains biologistes qui disent au moins, on peut dialoguer avec vous. C'était la même chose avec les psychanalystes. On peut dialoguer avec vous parce qu'il y a l'expérience. Tandis que si vous parlez de la conscience et des idées, vous êtes dans un point de vue purement subjectif. Et à ce moment-là, il y a une coupure radicale et totale de la philosophie et la science. Je vous donne la comparaison, moi, du château fort où lèvent les ponts-levis. Les philosophes ont peur de la science. Il faut se le dire, parce qu'ils sont délogés par la science.
C'est pas très pur. Tandis que penser l'être, c'est tout à fait pur. Ça peut pas être pur.
mathématiques. Alors lui dit la pensée la plus pure, c'est la pensée mathématique. Heidegger dit la pensée la plus pure, c'est penser l'être. C'est plus beau. J'aime mieux penser l'être que penser l'équation différentielle. J'aime mieux. C'est plus pur, c'est plus profond. Mais ça reste encore la conscience. Et c'est ce qui me semble être cette chose terrible, il faut appeler les choses par leur nom, de cette philosophie contemporaine qui s'enferme dans cette prison dorée qu'est la conscience. La conscience, c'est la condition sine qua non de la philosophie. Mais ce n'est qu'une condition sine qua non. Faut être conscient pour être un bon citoyen français. Surtout le jour des votations. N'est-ce pas ? Faut être conscient. Faut être conscient pour faire de la philosophie. Mais c'est pas ça la philosophie. On peut être conscient et être un imbécile. On pense quelque chose. On pense, c'est le contenu qui est intéressant. Or, on évacue le contenu pour arriver à cette conscience pure. Et on s'enferme dans cette conscience valide. Alors, c'est ça qui me semble intéressant à voir, parce qu'on aboutit à ça. Et aujourd'hui, on voit très bien que c'est une impasse. On est devant une impasse, ça, il faut bien se le dire. C'est ce qu'on a dit du reste à partir de Hegel. On est devant un tel sommet, génial d'une certaine manière. Hegel a essayé éperdument de redonner à la pensée humaine un certain contenu. Et ce contenu, c'était la réflexion sur elle-même dans son processus dialectique. C'est déjà quelque chose. Ce n'est plus le contact avec le réel. Le contact avec le réel est abandonné à la science. Alors vous voyez que de fait, on a ces deux positions. La pensée grecque, qui n'est pas simple, puisqu'elle est dominée par la personne et l'âme. Je ne peux pas ramener la philosophie grecque uniquement à la philosophie de l'âme. Je ne peux pas ramener uniquement la philosophie grecque à la personne. Hypostasis. Je suis obligé de maintenir les deux, parce que la philosophie grecque est très riche dans sa diversité. Ce qui me frappe énormément, c'est que de Descartes à Hegel, on retrouve cette attitude réflexive sur la conscience comme prima. Et c'est la philosophie de la personne qui évacue le problème objectif du réel. Parce que le réel est vu à travers l'idée. C'est ce que Heidegger a très bien vu. Qui évacue le problème de la substance et qui n'a plus que le problème de la personne. Dans la conscience, la personne ne se définit plus par la substance, elle ne se définit plus par l'âme, elle se définit par la conscience. Conscience de soi, conscience de ses opérations, conscience, c'est ça qui est l'aspect le plus propre de la personne. Et à ce point de vue-là, Husserl l'exprime de la manière la plus nette. C'est ce quelque chose de permanent, condition sine qua non de l'unité de tout le vécu. Et je crois que ça revient bien à ça. C'est la condition sine qua non de l'unité du vécu. S'il n'y a plus la personne, il n'y a plus d'unité du vécu. Et donc c'est ce qui est sous-jacent, condition sine qua non de l'unité du vécu. Condition sine qua non de l'unité du vécu, c'est pas grand chose. Voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que progressivement, la cause et le principe ont été remplacés. l'aspect objectif a disparu et on est resté dans une subjectivité, la conscience. Et c'est ça qui me semble être quelque chose de très très particulier et de très intéressant ce point de vue-là. C'est très intéressant de constater ça. Pour moi, c'est capital. C'est pour ça que j'ai exprès. Regardez ces deux pics. Parce que je crois ça important. Je vous ai dit, il y a trois grandes topiques à regarder. La topique du point de départ de la philosophie, la topique de la personne et la topique du terme de la philosophie. Le problème de Dieu. C'est les trois grandes. Et la personne, c'est l'axe. Alors, c'est complexe, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est pas étonnant, c'est difficile hein, d'essayer d'avoir une vue aérienne. Saisir l'essentiel de cette philosophie qui a perdu le contact avec le réel et qui s'est enfermée dans la conscience et qui se rattrape par la logique. Ça, c'est remarquable pour tout la logique mathématique. C'est une manière de se rattraper. Parce que la logique a l'immense avantage, c'est que c'est propre. Déjà, les scolastiques, comme Jean de Saint-Thomas, n'hésitaient pas de dire que la logique, elle est purement objective. C'est très très joli. Elle est purement objective. Parce que c'est vrai, il n'y a rien du sujet. Alors on a les deux extrêmes. L'homme, il dit, la philosophie est dissociée dans ces deux extrêmes. Logique mathématique, philosophie analytique, philosophie du langage, tout ça, ça se tient. Et puis, la pure subjectivité, penser l'être. C'est assez beau, et c'est terrible. Alors, quand on est dans ces courants-là, faut-il dire, comme Heidegger, la métaphysique est terminée. Il faut cette ontologie fondamentale, penser l'être. Faut-il dire que la personne, c'est uniquement la conscience? L'âme, non, ça n'a plus de sens pour le philosophe. Ne parlons plus de l'âme, ne parlons plus de la substance, parlons encore de l'être. C'est encore un certain intérêt chez certains. Et même, Dieu sans l'être. Donc l'être est conçu uniquement au niveau de la contingence du devenir. Mais on est devant cette situation, ça je crois qu'il faut bien le comprendre. C'est pour ça que certains disent, mais plus de philosophie, c'est fini. C'était une fausse piste. Alors, le pape, témoin d'un monde révolu, il faut l'enseignement de la philosophie. Il faut l'enseignement de la métaphysique. Celui qui crie dans le désert. C'est assez tragique quand on voit ça. Alors, je crois qu'on doit, c'est un devoir, essayer de repenser la philosophie en voyant le moment où elle a perdu sa vigueur. Et le moment où elle a perdu sa vigueur, c'est quand elle s'est repliée sur sa propre connaissance pour commencer avec l'idée. Le concept s'est identifié avec l'idée et on est parti dans cette subjectivité. À toute vitesse. Mais vous voyez que c'est pas commode parce qu'on a plusieurs siècles sur le dos. Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Il est resté un petit courant réaliste. Les thomistes. Les thomistes ont toujours existé. C'est très curieux. Les thomistes ont toujours existé. Et c'est intéressant de les regarder. Le grand effort qu'a eu à Louvain, il faut bien se le dire. Il y a eu un très grand effort avec le père Rousselot, avec le père Marc. Rousseau et de Maréchal. L'effort de Rousseau et de Maréchal sont, je crois, l'effort le plus loyal qui a existé pour maintenir le thomisme. C'était quelque chose d'assez héroïque et d'assez beau. Mais il me semble, à titre personnel, je ne peux pas dire plus, il me semble qu'il faut aller plus loin aujourd'hui. Parce que ça reste encore avec des références, avec Kant, avec des références, avec la philosophie contemporaine. C'est très bien de garder cette référence, mais pas pour rajeunir le thomisme. Je crois qu'on doit dépasser toute la scolastique. Revenir aux sources de saint Thomas. Comprendre que saint Thomas est un théologien et non pas un philosophe. Je sais que ça fait rougir certains thomistes en disant ça. Mais il faut le dire. Je crois que c'est la vérité. Au Moyen-Âge, on n'avait pas besoin de faire de la philosophie. On était en chrétienté. Comme dit toujours le père Chenu, et là il a raison. On était en chrétienté. Un théologien au Moyen-Âge, il parle à des chrétiens. Nous ne sommes plus en chrétienté. Nous sommes dans une diaspora. Nous ne sommes plus en chrétienté. Le concile demande ouverture au monde. C'est le concile qu'il demande. Le concile ne dit pas chrétien, gardez le ghetto. Il n'y a plus qu'un tout petit nombre de chrétiens. Rassemblez-vous, petit nombre de chrétiens. Soyez une petite oasis, bien fortifiée. Levez les ponts-levis, jetez de la poix. C'est l'attitude de certains chrétiens. La peur du monde scientifique, la peur du monde technique. Je comprends, quand on regarde toutes ces découvertes génétiques aujourd'hui, toutes ces recherches, je comprends très bien qu'on ait peur. Mais la peur est toujours mauvaise conseillère, vous savez bien. La peur, c'est pas le don de crainte. Le don de crainte nous conduit à la sagesse. Mais la peur nous conduit à quoi? Au repliement sur soi. Et c'est pas chrétien du tout. Le chrétien est victorieux, donc il n'est pas un être replié sur lui-même. Il est victorieux de la victoire du Christ. Il sait qu'il ne doit pas juger sur les apparences. Et il est victorieux. Jusque dans l'intelligence. Pas seulement dans le cœur. C'est pas suffisant. Parce que le cœur et la profondeur du cœur ne tiendra que si à l'intelligence. Autrement, ce sera un effet éphémère, et puis c'est tout. C'est très très bien, il faut être mystique. Et ça, c'est le secret. Un mystique se tait, il garde le silence. Il ne fait pas une apologétique du cœur. Il faut comprendre que l'intelligence est au service du cœur, et du cœur profond, et que l'intelligence est là pour sauvegarder la mystique. Le primat de l'amour. Mais l'amour ne se défend pas. On sait très bien. L'amour, il se vit. Il n'y a que l'intelligence qui se défend. L'intelligence, elle est faite pour se défendre. Ça, vous le dites alors. Elle nous donne une profondeur, une acuité pour se défendre. Alors, il ne faut pas être uniquement quelqu'un qui se défend tout le temps. Il faut vivre. Il faut vivre pacifiquement. Il faut vivre silencieusement. Il faut vivre jusque dans le silence de l'annonciation. C'est bien évident, c'est ça qu'il faut vivre. Ça, c'est l'aspect mystique, c'est le cœur profond. Le cœur profond, c'est Marie dans l'Annonciation. C'est là où vous découvrez le cœur profond. Pas autre part, c'est dans le cœur de Marie. Alors là, vous découvrez le cœur profond. Mais la philosophie est nécessaire pour sauvegarder la limpidité de l'amour. Donc on n'a pas le droit d'abdiquer, et le Saint-Père nous demande de ne pas abdiquer. Il nous le demande expressément. Il le demande en public, ce qui est courageux. Donc, il faut découvrir comment on peut tout reprendre. Et là, c'est toujours remonter au moment où on a perdu ce contact avec le réel. Daniel, saint Thomas, est un théologien, c'est pas un philosophe. On doit non pas laïciser la pensée de saint Thomas, l'expérience a été faite et c'est pas concluant. On doit au contraire remonter à la source de saint Thomas, comprendre que saint Thomas a opté pour Aristote, que c'est pas suffisant le néoplatonisme. Le néoplatonisme est merveilleux, il faut l'aimer. Mais le néoplatonisme n'est pas suffisant parce qu'il manque du réalisme ultime. Voyez, le néoplatonisme de Plotin. Si j'avais un peu de temps, on ferait des cours sur Plotin. C'est merveilleux, Plotin. C'est merveilleux parce que c'est très beau. Cet immense avantage, c'est qu'il donne toujours les deux voies. La voie de l'extérieur de l'expérience et la voie intérieure. Mais où Plotin est faible, c'est que la voie de l'expérience externe est seconde par rapport à la voie de l'expérience interne. Bien, je crois qu'il faut changer la vapeur. Et dire l'inverse. Il y a toujours ces deux voies, la voie de l'expérience interne et la voie de l'expérience externe. Le réalisme, c'est toujours l'expérience ultime. L'intelligence liée au sens externe. Mais ce réalisme, pour être profond, implique l'expérience interne. Et c'est très curieux qu'on retrouverait le sens littéral de l'écriture et le sens mystique. Vous voyez, c'est les deux aspects. C'est l'être et l'amour. L'être et le bien. Il est évident que le bien, vous ne saisissez parfaitement que par une expérience interne. Par l'amour. Mais l'être, vous le saisissez parfaitement que par l'expérience externe. Bien, je crois que c'est cela qu'on doit faire aujourd'hui. Redécouvrir une philosophie saine, réaliste, qui implique non seulement l'expérience externe, mais aussi l'expérience interne. Non pas du tout en voulant unir les deux, en acceptant qu'il y aura toujours, à l'intérieur même de ma philosophie, deux grands axes. Philosophie spéculative, philosophie pratique, et je n'irai jamais les deux. Eh bien, pour la personne, on voit cela. Une métaphysique de la personne et une philosophie éthique de la personne. Il y a les deux. Il ne faut pas vouloir unir les deux. Il faut accepter que quand il s'agit de la personne ne peut pas se ramener uniquement à l'être. Et la personne ne peut pas se ramener uniquement à l'amour. La personne implique les deux. Et c'est peut-être pour cela, vous voyez, que ça devient le problème capital d'aujourd'hui. Réconcilier l'objectivité et la subjectivité. Et c'est le problème de la personne qui doit permettre de réconcilier les deux. Réconcilier les deux, non pas en faisant une synthèse des deux. Vous ne ferez jamais la synthèse de l'être et du bien. Il n'y a que en Dieu où l'être et le bien ne font qu'un. Mais ça, c'est le privilège de Dieu. Mais nous devons comprendre que la personne, c'est pour ça qu'elle a deux bras, la personne, c'est pour ça qu'elle a deux yeux. La personne implique un lien avec le bien, un lien avec l'être. Je vous défie de saisir la personne uniquement par l'être. C'était l'erreur des scolastiques. ils sont restés à la substance. Et je vous défie de regarder en profondeur la personne uniquement par le bien, c'est-à-dire par l'amour. Vous tomberez dans la subjectivité pure. Il faut les deux. Et c'est dans la personne humaine que se fait cette admirable connexion, dirait saint Thomas, entre l'être et le bien. Et cette admirable connexion se fait dans la personne humaine. Si j'essaie